Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles, une chronique féministe des radios associatives des Hauts-de-France.
Oh les filles.
Épisode 3 des chroniques Oh les filles sur la thématique Être femme en société.
On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Précisément parce qu'il est une construction sociale, le sexisme n'est pas une fatalité. S'y attaquer est un objectif réaliste et concret. Nouvelle table ronde à la recherche de solutions contre les représentations du sexisme et ses manifestations dans notre société, agrémentée des recommandations du Haut Conseil à l'égalité.
Moi j'avais un exemple de solution, alors c'était porté par une association donc c'est peut-être pas l'idéal, mais en Écosse, les bars ferment tous à minuit et les boîtes de nuit ferment tous à 3h du matin, donc c'est tout, c'est comme ça. Donc tout le monde est dans la rue en sortant du bar, du restaurant, etc. au même moment, et du coup il y a des Shepherd Street, Street Shepherd peut-être. Et en fait, c'est des associations qui sillonnent les rues et qui vont aider les gens, surveiller que les femmes ne se fassent pas embêter, qu'il n'y ait pas de bagarre. Et en fait, avoir une présence de gens dans la rue, pas justement en mode festif, ayant consommé de l'alcool ou autre, etc. Et ben, il y avait un côté rassurant et presque sympa. Ils avaient des bonbons, c'était l'occasion de faire de la discussion. En fait, je pense que peut-être la sécurité, elle passe juste par l'occupation de tous et pas juste de quelques-uns. De cet espace public.
S'attaquer aux racines du sexisme implique d'agir de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, dans tous les aspects de la vie privée comme publique. En 2024, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes souligne dans son état des lieux que cela nécessite une prise de conscience collective de la part de celles et ceux qui, dans la société, diffusent parfois contre leur gré des stéréotypes de genre et participent activement à la construction sociale du sexisme. Comment prévenir et lutter contre le sexisme ? Le sentiment d'impunité des actes et propos sexistes s'exprime à hauteur de 75% parmi les sondés. 84% de la population estime même que lutter contre le sexisme doit être prioritaire dans l'agenda des pouvoirs publics.
En fait, je pense qu'on parlait de l'éducation. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est aussi que la société fasse l'éducation. Parce qu'on a parlé de l'école, on a parlé des parents. En fait, la société, elle éduque aussi. Des trucs bêtes, mais si on fait le con dans la rue et il y a 4 personnes qui disent « mais là, tu fais n'importe quoi et ça suffit », ils nous foutent un peu la honte, je veux le dire comme ça. Je pense que ça contribue aussi à l'évolution de la société. Et si à chaque fois qu'il y a une pub ultra sexiste qui sort, les consommateurs disent « non mais vous vous tapez la honte, je sais pas quelle marque, à vendre votre carrelage avec une meuf en string derrière, ça n'a rien à voir, nous on boycotte, on n'achètera pas vos produits », bah peut-être que le mec qui fait le marketing pour la boîte, la fois d'après, il va pas mettre une meuf en string sur son affiche.
Alors ça, c'est effectivement quelque chose que je trouve hyper choquant encore aujourd'hui. C'est comment on instrumentalise la femme au service de la vente de quelque chose. Mais j'allais dire, ça démarre même dès tout petit, l'image de la petite fille qui va porter son petit t-shirt rose avec des mots-clés comme douce, timide, etc. Alors que le petit garçon va faire un t-shirt un peu plus agressif au niveau du marketing et puis avec des mots genre fort, costaud, courageux. Et en fait, ça démarre dès tout petit, alors même que l'enfant qui porte le t-shirt n'a pas conscience de ça. Et donc pour moi, il y a un gros travail à faire effectivement dès la petite enfance et puis au niveau de la mode, de la représentation de la mode, effectivement, autour de ça, ouais.
Ce même rapport établit parmi ses recommandations de déployer un programme d'éducation à l'égalité. Il s'agit d'instaurer une obligation de résultat pour l'application de la loi sur l'éducation à la sexualité et à la vie affective, et de prévoir une sanction financière en cas de non-respect de cette obligation. Il est également proposé d'assigner la responsabilité du suivi de ce programme à une enseignante ou un enseignant dédié ou à un tissu associatif compétent et labellisé, ainsi que de mieux représenter les femmes dans les contenus des ouvrages scolaires.
À la maison, on peut déjà, au départ, éduquer les filles et les garçons de façon à ce qu'ils se respectent les uns les autres. On peut continuer à l'école, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on devient adolescent ou adulte, on est respectueux des autres.
Il faut leur donner l'exemple aussi. Il faut que l'adulte soit capable de se remettre en question et de donner l'exemple, parce que les gamins, ils font par mimétisme.
Oui, mais comme on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, oui. Il faut bien démarrer à un moment donné. Il est grand temps que ça commence maintenant, quoi. On peut y réfléchir et puis intégrer ça dans l'éducation en général. On découvre aujourd'hui que, par le passé, c'était des femmes qui avaient fait des découvertes, mais qu'on l'attribuait à des hommes, parce que le fait qu'elles soient femmes, C'était inadmissible qu'elle ait trouvé quelque chose qu'un homme n'avait pas trouvé.
Oui, mais tu parles de ça il y a combien
Ah ouais, mais c'est important.
Au début. Eh ben oui, mais je suis désolée.
Mais,
hein.
Oui, mais comme on parle de progrès maintenant, c'est plus ça quand même.
Après, c'est pas bête. C'est, en fait, il ne faut aussi pas réécrire l'histoire parce que ça fait un peu propagande, justement. Mais remettre les femmes dans l'histoire. Parce qu'on parle de Marie Curie, mais en vrai, nous, on cite combien de grandes physiciennes, chercheuses, archéologues, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, astronautes, etc. Elles ne sont pas mises en avant par notre histoire, donc travailler là-dessus. On parlait de l'éducation, si les gamins, dès le départ, à l'école maternelle, ils apprennent que c'est telle femme, machin qui a découvert ceci, qui a travaillé là-dedans et tout, au final, ça devient une représentation, un exemple.
Ouais. Commençons à apprendre leur nom
à l'école,
et puis à l'école. À le diffuser. Mmh. Donc ça fait une petite part de l'évolution qui pourrait avoir lieu. Il faut bien commencer quelque part. Donc de toute façon, toutes les petites tâches qu'on pourra mettre en œuvre aujourd'hui, même si elles paraissent trempées dans le passé, elles sont quand même importantes. On peut les sortir. Donc c'est pas inutile.
Moi, j'ai hésité quand j'ai refait mon CV de professeur à mettre professeur Re. Je me dis, alors selon sur qui je tombe, je vais peut-être pas avoir le poste. Mais j'ai mis professeur Re et j'ai trouvé un poste.
Énoncer toujours un nom masculin pour faire une référence à un poste, ça veut dire que les filles ne s'identifient pas à des postes. Par exemple, si tu dis que tu es professeur de l'université, que tu es docteur, les petites filles ne vont jamais rêver d'être docteur. Donc, je suis d'accord avec toi, les postes n'ont pas de sexe ni de genre. Les postes en soi, le travail en soi, n'ont pas de différence que le fasse une femme, un homme, un astronaute, un physicien, une physicienne. Mais c'est bien de distinguer pour qu'on entende souvent ça, pour que les petites filles se disent « moi, je vais être physicienne ». Une de mes filles est physicienne d'ailleurs. À l'école, on lui a dit « non, tu ne peux pas être physicienne, ça n'existe pas ». Au collège, il est venu en pleurant à la maison de sa maman, m'a dit que physicienne, c'était pas dit, mais ils sont fous, il y a Madame Curie. C'est la conseillère d'éducation qui ça n'existait pas. Et maintenant, il est docteur en physique. Dire que ça existe, physicienne, docteur, professeur, ministre, c'est donner un encouragement aux filles à se lancer, à ne pas avoir peur, à dire non, c'est un créneau pour les hommes et moi je ne peux pas faire ça, je vais être coiffeuse, maîtresse, je vais être aussi quelque chose, un poste important dans la société.
Et pourtant c'est une femme qui lui a dit ça.
C'est l'importance de la représentation.
Être
capable de se dire, ben, moi aussi je peux, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant. On l'a vachement vu avec les JO, il y en a plein qui en ont parlé. De voir des athlètes féminines ultra badass, enfin, elles sont super fortes, elles ont des médailles, machin. De voir le nombre de petites filles, du coup, disent, ah mais en fait, moi aussi je peux faire du sport à haut niveau dans des trucs dits, entre guillemets, masculins. Et ben, c'est l'importance des représentations.
Et là, on revient au mimétisme et à l'exemple. Comme on parlait tout à l'heure pour l'éducation, ça veut dire que les filles ont besoin aussi d'avoir des repères positifs, des exemples positifs, valorisants. Les garçons, ils ont besoin d'avoir des repères des hommes qui sont généreux, justes, gentils, pour l'éducation et aussi pour s'élever en société, pour devenir quelqu'un de bien.
Et ben là, du coup, la solution, ce serait féminiser les noms de métiers, qu'importe le métier, pour permettre aux jeunes filles de se projeter dans un métier et l'importance de la représentation, et permettre aussi aux garçons de voir qu'il y a une égalité, avoir une culture du féminin dans la société.
Il y aurait quand même vraiment une espèce de quota en fait, qui garantirait l'accès pour les femmes à certains postes clés ou à certains droits vraiment reconnus. En fait. Tu vois, si c'était davantage légiféré, je pense qu'il y a des choses qui pourraient davantage bouger. Là, par exemple, aujourd'hui, on est loin d'imaginer qu'une femme puisse devenir présidente demain. On en est encore loin, je trouve, même s'il y a des choses qui bougent. On a évoqué tout à l'heure le congé parental. En fait, aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de femmes qui reprennent le travail, pas réellement par choix, mais par problème financier. Je trouve que, par exemple, laisser la possibilité de prolonger un congé parental, mais qu'il soit reconnu par la société, donc rémunéré, par exemple, ça laisserait vraiment un choix plus réel aux femmes. Et de la même manière que les papas aient un congé paternité qui soit prolongé pour être un vrai soutien à la maison et avoir leur place auprès de l'enfant, bah, ça permettrait une vraie égalité homme-femme.
Le rapport 2024 préconise également une régulation de la manière dont les femmes sont représentées dans les contenus numériques et pornographiques. Notamment en fixant comme priorité de politique pénale la lutte contre la pornocriminalité, la propagation en toute liberté de scènes de violence banalisées et illégales, et les sites pornographiques dans l'illégalité. Pour faire du délit de sexisme un véritable outil juridique de condamnation du sexisme, il faut déjà réaliser un profond travail de simplification du droit existant, augmenter les moyens financiers et humains de la justice et surtout mieux accompagner les femmes victimes de violences tout au long de la chaîne judiciaire, au sein de laquelle il est urgent de diffuser une culture de la crédibilité des victimes.
En fait, il y a les trois volets, c'est la prévention. Il faut éduquer les enfants à qui ne voient pas ça comme normal. Ça commence là. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut aussi appliquer les volets application des lois et voire répression. Mais il faut tout en même temps. Il ne faut pas négliger un côté pour... Il faut tous les trois volets. Il faut vraiment éduquer, agir et punir. Quoi. Et...
Moi, je crois qu'il faut faire attention aussi à... Trop de lois tue la loi.
Ouais, c'est ça, la répression, trop de répression.
Trop de sanctions, ça ne sera pas la solution. Parce que ça deviendra tellement banal d'être sanctionné que ça ne fera plus peur à personne. Ouais. Donc je ne crois pas que ce soit la bonne solution.
Mais c'est déjà, ça peut déjà décourager certaines personnes. Oui. Il y a certaines personnes que ça leur donnera envie de franchir les barrières, mais il y a certaines personnes qui vont réfléchir. Parce que bon, pour l'histoire des ports de ceinture de sécurité, il y a certains qui vont encore sans ceinture et qui s'en foutent et qui vont sans permis. Mais je pense que ça dissuade beaucoup de monde de les faire parce qu'il y a les pénalités, il y a les procès, il y a les retraits des permis, tout ça. Donc c'est bien qu'il y a des sanctions, des choses. Donc même si ce n'est pas sympa de les dire, il faut, comme vous dites, ça n'a pas totalement réglé les choses, mais il faut qu'on tienne en compte, qu'on dise aux gens, ça c'est pas bien. Enfin, si on est une société des droits, il faut appliquer des droits pour que tout le monde soit bien.
Voilà. C'est surtout qu'à partir du moment où quelqu'un est puni, ça doit être respecté. Parce que bien souvent, après, bon, ils vont à la police, ils sont interrogés, puis après ils ressortent.
Oui, ensuite, et comment ça se passe, ce moment où la loi, enfin, la justice, les applications de la justice, ça c'est encore un autre volet.
On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini la bataille.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles, une série de chroniques réalisée par les radios de la France en partenariat avec la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes des Hauts-de-France.
Oh les filles!
À réécouter sur franf.fr.